Bonjour à tous. L'étude que je vais présenter aujourd'hui, en fait, elle s'inscrit dans un projet de recherche-action d'un an qui s'appelle CODERA, et qui a été mené avec mes collègues de DINAFOR, Diane Esquiré, Aude Vialat, Cécile Barnaud et Christine Hervé, et également avec la contribution d'Anouk Leclerc, qui a contribué aussi à cette étude pendant son stage de master de M2. L'étude part du constat qu'on a assisté de manière parallèle, mais pas forcément concertée, à la fois une territorialisation de l'action publique, mais aussi à un verdissement des politiques agricoles, une institutionnalisation de l'agroécologie depuis une vingtaine d'années. Et cette territorialisation, pardon, répond à la nécessité, en fait, de répondre de manière intégrée à une problématique complexe en prenant en compte le contexte et la dimension spatiale. Et le verdissement des politiques agricoles, lui, on l'a vu notamment depuis la PAC, depuis la réforme de 92, et puis en France au travers du tournant agroécologique qui a été insufflé par le FOL en 2012. Et en même temps, en fait, il y a un nombre croissant d'études scientifiques qui s'appuient sur des concepts et des théories de l'écologie du paysage qui défendent que la transition agroécologique elle nécessite une gouvernance concertée des services et des services écosystémiques à l'échelle du paysage. D'où une nécessité de croiser un petit peu ces deux orientations. Cependant, la gouvernance des services écosystémiques à l'échelle du territoire, elle ne va pas de soi, et elle soulève plusieurs enjeux au regard des théories d'action collective. Et donc, il est important, en fait, de s'interroger sur les conditions d'émergence de cette gouvernance concertée. D'une part, parce qu'en fait, cela suppose une coordination des producteurs et des bénéficiaires de ces services. Donc, selon les théories de l'action collective, cette coordination nécessite que les acteurs, déjà, soient conscients de leur interdépendance et de l'impact de leurs actions sur les biens communs et les biens publics. Il faut également qu'ils aient des informations suffisantes pour se coordonner et également qu'ils puissent évaluer, en fait, les coûts et les bénéfices de leurs actions. De plus, les recherches en innovation rurale, elles soulignent la nécessité de considérer les intérêts conflictuels, enfin, pas toujours, mais souvent conflictuels des acteurs et les asymétries de relations de pouvoir. Alors que la littérature académique en sciences politiques, elle qui envisage plutôt, en fait, cette gouvernance territoriale comme une institutionnalisation de l'action collective, suppose qu'il y a un élargissement des parties prenantes aux prises de décision, à une multiplicité d'acteurs qui dépasse largement l'État. Et cette littérature en sciences politiques s'intéresse également à la coordination, au jeu de pouvoir et aux mécanismes de négociation, tout en reconnaissant que le territoire est défini comme un construit social et qu'il est influencé par d'autres sphères et notamment par les politiques publiques. D'où la question de recherche qui sous-tend un peu cette présentation, qui est quelle est l'influence, en fait, des politiques agricoles ou agroécologiques sur l'émergence d'une gouvernance concertée de la transition agroécologique à l'échelle du paysage ou du territoire. Donc, le cadre théorique que je vais mobiliser, principalement l'analyse institutionnelle et l'action collective, et notamment un papier récent de Villamayor Thomas et de ses collègues qui examine comment différents types de dispositifs de politique publique influencent l'action collective locale. Mais je m'inspire également, en fait, de la politique à l'écologie et de l'analyse des relations de pouvoir dans la gouvernance des ressources naturelles. Et je mobilise aussi un courant d'analyse des politiques publiques qui est l'analyse interprétative de ces politiques, et notamment l'analyse délibérative des politiques publiques, en fait, qui part du constat qu'on n'est plus dans des modèles classiques de conception et de mise en œuvre des politiques publiques largement dominées par l'État, selon des mécanismes un peu centralisés et bureaucratiques, mais plutôt qu'on est dans des environnements politiques qui sont très, très pluralistes, assez imprévisibles, et donc qu'il faut adapter notre approche d'analyse de ces politiques en la basant à la fois sur l'interprétation, sur ce qu'on appelle practice-based approach, et sur la délibération. Voilà. Donc juste un petit rappel, parce que ça va être utile pour la suite de la présentation. Sur ce cadre d'analyse développé par Ostrom et ses collègues, d'analyse institutionnelle, où je vais m'intéresser en fait ici principalement à comment les règles, les rules in use, en fait influencent ce qui se passe dans les action situations, les situations d'action. Et notamment voilà, l'influence que peuvent avoir différentes règles sur différentes caractéristiques de cette situation d'action. Donc, par exemple, les boundary rules, qui vont être des règles qui vont définir qui est inclus et qui est exclu en fait, à participer à ces actions, ou des règles de information rules, informations qui, elles, vont définir quel type d'information est accessible à qui, etc. Donc pour revenir un petit peu au contexte de l'étude, donc comme je vous l'ai dit, cette étude s'est déroulée dans le cadre d'un projet de recherche action participative. Donc la recherche action participative, ça comprend un ensemble d'approches et d'outils où vraiment les chercheurs et les participants collaborent pour essayer de trouver des solutions à un problème donné. Et ça s'inspire voilà, aussi de la conscientisation voilà, au travers d'un processus qui mêle à la fois action et réflexion. Donc le terrain qui est situé dans la Z à Pigard, donc vous voyez ici c'est la Haute-Garonne, et le terrain d'étude se situe ici, c'est une zone d'étude à long terme en fait du laboratoire d'INAFOR où je travaille, qui s'appelle les Coteaux de Gascogne, où le Nord commun, les acteurs locaux, enfin les habitants locaux l'appellent plutôt le Nord commun. Donc c'est une zone d'études à long terme de DINAFOR, hein, où les chercheurs se sont intéressés notamment au lien entre la biodiversité, les pratiques agricoles et le paysage. Et donc ça, cette question de gestion concertée du paysage pour maintenir la biodiversité, tout en favorisant également l'agriculture. Il y a également sur ce territoire en fait une forte problématique, comme sur beaucoup d'autres territoires en France, de maintien de l'agriculture et en particulier de la polyculture élevage assez extensive qui domine. Vous voyez ici par exemple, le nombre d'exploitations qui a fortement diminué, avec en parallèle une augmentation de la surface des exploitations, ce qui pose également des problèmes de transmission et de reprise sur ce territoire. Et puis, des débats grandissants en fait, liés à l'érosion, avec... pardon, ouais, il y a deux articles de la Dépêche différents. Donc l'un, l'effet des orages est aggravé par l'érosion des sols agricoles, qui pointe vraiment les pratiques agricoles comme responsables des coulées de boue et des inondations qui ont lieu sur le territoire en juillet 2018. Et puis la réponse un petit peu de la FDSEA, comme quoi les agriculteurs mettent en œuvre toutes les techniques possibles pour limiter l'érosion. Et donc, en fait, ce projet, il est vraiment né sur ces trois enjeux. Je suis désolée parce que mon diaporama ne fonctionne pas. Donc, à la fois la gouvernance concertée des paysages pour maintenir la biodiversité, qui est portée par Dinafor, à la fois comment réduire l'érosion des sols sur le territoire, qui est plus particulièrement un sujet d'intérêt pour le syndicat de rivière et pour le conseil départemental de la Haute-Garonne, qui doit nettoyer les coulées de boue sur les routes, et puis pour les associations d'agriculteurs qui sont également partenaires du projet, les AGBA et la Chambre d'agriculture, c'est aussi cet enjeu de maintenir la polyculture élevage sur le territoire. Et en fait, c'est évidemment ces trois enjeux sont liés, et voilà. Et on est parti de ce constat et de ces intérêts divergents, mais finalement qui se rejoignent pour créer le projet Quatera. Donc ça, c'est la... Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais globalement, voilà, c'était la question en fait de recherche-action qui a été co-construite avec les partenaires, donc c'est tous les organismes que j'ai cités avant. Voilà, quelle concertation à l'échelle du territoire pour limiter l'érosion des sols, en prenant en compte également tous les autres enjeux. Le déroulement du projet, donc il y a eu différents volets sur ce projet, donc un volet d'atelier, de diagnostic du territoire, et là le volet que je vais, sur lequel je vais m'attarder plus aujourd'hui, c'est donc l'étude des politiques publiques, et puis un volet de vidéo participative, où en fait, on a formé des étudiants d'un lycée agricole qui ont réalisé un film qui était basé sur des entretiens avec des agriculteurs et aussi avec des conseillers agricoles sur le territoire. Et ce petit film, qui dure à peu près 10 minutes, a été ensuite projeté à la fois au niveau local et régional, avec un débat qui a suivi derrière sur l'accompagnement et à la transition agroécologique et sur les dispositifs de politique publique. Donc voilà, le film, vous pourrez le retrouver en tapant « Comme un jeter vivante » sur Google ou sur YouTube. Les projections débat... Voilà, et donc je vais présenter plutôt maintenant les résultats de l'étude. Donc en fait, l'étude, on partait un petit peu sur l'hypothèse que la situation d'action à laquelle on avait affaire sur le territoire était soit une situation de coordination ou ce qu'on appelle « prisoner's dilemma », c'est-à-dire que les acteurs, les agriculteurs, ont intérêt à se coordonner. Mais soit ils n'ont pas suffisamment d'informations pour le faire, soit ils n'ont pas les bonnes incitations. Donc en fait, l'idée c'était que pour limiter l'érosion, les acteurs avaient intérêt à se coordonner, par exemple en termes de mise en place d'infrastructures agroécologiques sur le territoire, et que cette coordination pouvait également leur être bénéfique, notamment en termes de réduction de bioagresseurs, de ravageurs des cultures. Et donc voilà, c'était un petit peu le pari ou l'hypothèse des chercheurs sur cette gouvernance concertée du territoire. Mais en fait, pour les acteurs locaux, pour les agriculteurs, pour eux, on était plus dans une situation d'externalité, c'est-à-dire que les acteurs n'ont pas vraiment intérêt à se coordonner ou à rentrer dans un système d'action collective. Et voilà, c'est assez illustré un petit peu par ce verbatim, puisqu'il y a eu des réunions en fait, d'information qui ont été organisées par le conseil départemental sur différentes communes pour essayer de sensibiliser un petit peu à l'érosion des sols. Et donc, une agricultrice qui disait, voilà, parce que le maire... Voilà, il nous appelle pour trouver la solution, pour nous demander, nous, agriculteurs, qu'est-ce que l'on pensait pour résoudre ces problèmes. Et là, on a dit non, on n'a pas à y aller. C'est pas l'agriculteur. Vous voyez au milieu de 20 gros agriculteurs dire « Ouais, mais c'est ta haie, c'est ta faute parce que tu as arraché toute ta haie. » Non, voilà quoi, ce serait une bagarre entre agriculteurs. Donc, comme on l'a dit, ce n'est pas à nous, agriculteurs, de faire. Voilà, autour de nous, il y a des gens qui ont pondu des lois pour la PAC et tout ça. Et il faut que ce soit eux qui soient responsables pour « Non, stop là ». Donc voilà, une agricultrice pour
Deux
qui
minutes,
vraiment.
Florian.
Ouais, 2 minutes, ouais, pardon, moi je suis un peu. Enfin, on voit bien vraiment que pour elle, ce n'était pas aux agriculteurs de résoudre ce problème. Voilà, pour qui l'action collective n'était vraiment pas du tout, n'était pas du tout légitime. Et ça renvoie vraiment à des questions voilà, de légitimité aussi de politique publique et des questions de justice, puisque beaucoup d'agriculteurs qu'on a interviewés, eux également, pense que finalement, ils étaient pris dans un système qui les a poussés à une agriculture, une forme d'agriculture productiviste, et que maintenant, bah, c'est aux politiques finalement de les sortir de là, de cette situation, et que ce n'est pas eux de trouver des solutions pour répondre aux problèmes que ça a posé. Voilà, juste c'était un petit tableau, une analyse en fait des différents instruments de politique publique qui sont sur le territoire et qui ont une visée soit territoriale, soit collective, donc avec des dispositifs de zonage, notamment de zones vulnérables liées à la directive européenne nitrate ou des zones défavorisées liées au second pilier de la PAC, projet alimentaire territorial, les projets agro-environnemental et climatique, et puis tout ce qui est collectif d'agriculteurs voilà, lié au projet agroécologique ou au plan éco-phyto. Avec donc l'analyse des différentes règles hein, qui ont été affectées dans la situation d'action. Et en fait, au final, à part le projet alimentaire territorial, c'est des dispositifs qui n'impliquent pas vraiment d'action collective entre ces acteurs. Je vais passer à la suite. Donc ça, c'est en termes de modèle institutionnel. Mais les politiques ont également d'autres influences, notamment par rapport au fait qu'elles légitiment certains modèles agricoles. Et la polarisation des modèles agricoles s'est vraiment fortement ressortie lors des entretiens et des projections d'EPA comme un facteur clivant et un frein important en fait, à la coopération et même juste à des formes d'échange sur le territoire. Donc là, un agriculteur en bio, voilà, qui dit combien il se sent isolé sur son propre territoire.
Si tu peux conclure,
Et
excuse-moi.
puis pour conclure, ouais, j'ai juste cette diapo et après je conclue. Et puis en termes voilà, d'instruments de politique publique, on est de plus en plus dans des appels à projets. Où en fait on met en compétition des projets au sein d'un territoire sans forcément qu'il y ait une vision voilà, cohérente et globale ou une ambition de résoudre un problème donné sur ce territoire en particulier. Pardon. Et puis évidemment tout ce qui est individualisation des aides et puis la bureaucratisation qu'il y a derrière avec le. Pardon. Avec l'évolution du métier de conseiller agricole qui est de plus en plus tourné vers de l'administratif et du réglementaire. Voilà, donc juste pour conclure, voilà, que c'est important en fait de vraiment d'analyser la perception de cette situation d'action, qu'au final, les dispositifs de politique actuels incitent très peu à l'action collective, notamment de par le type d'outil institutionnel qui est mis en place. Donc, vers quoi on peut tendre en fait sur le territoire. En fait, l'identité du territoire était vraiment un moteur important en fait pour l'action collective, plus que l'érosion des sols au final. Et c'est important, je pense, de s'appuyer un petit peu sur développer des visions de l'agriculture commune pour essayer justement de dépasser ces modèles de Pardon, cette polarisation des modèles agricoles. Et enfin, c'est important de repenser également à la légitimité de l'action publique en termes de verdissement.
Ariane, il faut qu'on
Voilà.
arrête. On va passer à Nicolas.
Merci.